Il paraît que l'instinct maternel existe et qu'il est infaillible. Il paraît qu'une maman aime son enfant au premier regard, qu'elle aurait des gestes innés, immémoriaux. La maternité serait sans doute, sans peur et sans reproche. Il paraît qu'une mère protège son enfant quoi qu'il arrive, douce comme une lessive, puissante comme un brame. Ah mais non, voilà que la littérature arrive, elle dit « Ah non, non, une mère, ça insulte, ça cogne, une mère, ça décapite ». Tiens, mais qu'est-ce que je vois là au fond? Ce serait pas Médée qui avance? Médée dans la mythologie grecque, qui tient dans chaque main la tête coupée de ses deux enfants? Merci l'instinct maternel. À côté d'elle, il y a Madame Vintras qui fouette l'enfant de Jules Vallès. Et puis Folcoche, la mère frappeuse de Vipère au poing d'Hervé Bazin. Celle qui dit à son mari « Ce n'est pas parce que vous m'avez fait des enfants dans le noir que je dois les aimer ». Elle est accompagnée de Madame Lupic, l'horrible mère de Poils de Carotte de Jules Renard. Et aussi, tiens, une nouvelle venue, elle s'appelle Jeanne. Jeanne, elle va loin. Elle s'est mise en tête de manger son fils, carrément. C'est l'héroïne de Cannibale, le dernier roman de Régis Geoffrey. Elle dit « Manger son enfant ? Je crois bien que c'est le fantasme enfoui de beaucoup de mères. Ingurgiter ce que nous avons un jour expulsé, rendre à la nature le fruit de nos entrailles. » Ça, elle l'explique, tranquillement, à l'ex-fiancée de son fils, qui s'appelle Noémie, et qui trouve que manger ce garçon serait tout à fait raisonnable. Et tout le livre est la correspondance fêlée, affamée, hilarante, entre Jeanne et Noémie, la mère et l'ex, c'est Thelma et Louise, anthropophages. Alors, avant d'avoir une plainte des amis de Laurence Pernoud, des amis de Françoise Dolto, des amis de tous les amis des moments d'amour, on partagera, non pas un être humain, mais un apéro, un amuse-bouche avec Régis Geoffrey.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour.
Vous n'avez pas envie de me manger?
Non, mais moi je mange assez peu les gens.
Hein. Vous avez raison. Le brave garçon qui va se faire dévorer dans votre livre Cannibale, vous auriez pu l'appeler François, Nicolas, Bruno, un peu comme une primaire des Républicains, mais non, vous l'avez appelé Geoffrey. Vous vous appelez Régis Geoffrey. Vous voyez venir ma question?
Oui, mais parce que c'est un roman, en fait, dont le sujet, c'est pas tellement la mère, c'est l'amour. Et je pense que tous les romans d'amour sont forcément autobiographiques. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de littérature autre que biographique, surtout quand elle est imaginaire. C'est-à-dire qu'elle est biographique au sens où on se met tout entier dans ce qu'on écrit et tout entier dans chaque phrase. Et un roman d'amour, c'est forcément l'expérience qu'on a pu avoir de l'amour.
Donc vous vous êtes fait dévorer ou vous avez mangé quelqu'un ?
Je n'ai ni dévoré, ni... En fait, c'est le problème de la question dans ce livre, c'est pas tellement de manger le fils qui s'appelle Geoffrey. En réalité, c'est deux femmes qui sont aux prises avec le destin. Et lui aussi, ils sont tous aux prises avec leur destin. C'est-à-dire que leur projet, c'est de manger quelqu'un et ils vont être mangés à leur tour. C'est le destin qui est plus fort que les hommes.
Oui, mais l'idée de dévoration a donc son poids, parce qu'elles auraient pu décider de le supprimer simplement, ce Geoffrey. Or, elles décident de l'ingérer. C'est pas rien comme décision. Pourquoi est-ce que vous avez pris l'idée d'être mangé ?
Parce que je pense qu'elles ont un projet un peu barbare. Je pense qu'elles s'entendent autour de cette fête un peu barbare. Et en réalité, c'est pas de la haine, parce que je pense que dans nos sociétés, on mangerait pas quelqu'un pour lequel on a de la haine. D'ailleurs, on mangerait personne. Mais la mère, c'est qu'en réalité, son fils, c'est l'amour de sa vie, mais c'est pas son fils. C'était quelqu'un qu'elle a connu avant, qui est mort. Elle a eu cet enfant avec un autre homme. Et elle a reconnu dans cet enfant, dans ce Geoffrey, l'amant d'avant, quand il était enfant, mais après il l'a toujours déçu, puisque en fait Geoffrey n'est pas Geoffrey. Geoffrey est ce Geoffrey qui existait avant et qui était l'amant de sa mère, avant de sa naissance.
Mais comme Régis Geoffrey n'existe pas vraiment, il est aussi le personnage, plein de personnages que vous avez distillés dans vos livres.
Oui, et puis moi, alors le problème c'est que je m'appelle Régis Geoffrey, alors je m'appelle Régis, j'ai pas de chance, et Geoffrey, en fait, quand on l'écrit comme un prénom, je trouve ça assez beau. Voilà, donc alors j'aurais pu appeler mon fils Geoffrey, mais ça aurait été presque de la maltraitance, appeler un enfant Geoffrey. Mais enfin, j'ai toujours adoré ce prénom-là.
Alors pour manger Geoffrey, Jeanne, donc la maman, elle doit d'abord le tuer. Donc elle envisage l'empoisonnement, l'étouffement, la bagarre qui tourne mal. Ensuite, elle se demande avec Noémie comment le saler, le poivrer, attendrir sa viande, le dépecer. Quand vous écrivez ça, Régis Geoffrey, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites... Oh, mais quand même, c'est sa mère. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Jiminy Cricket, comme dans Pinocchio, qui vous dit « Mais Régis, tu vas vachement loin quand même ».
Ah non, moi je suis absolument, je suis sans borne. Non, je trouve que la littérature c'est sans borne. Je trouve qu'on est dans une société où finalement l'art, étant donné que c'est un art, l'art passe par le commerce, c'est une chose de nos sociétés, donc il est de plus en plus limité. C'est un peu comme si on sortait un produit manufacturé. C'est-à-dire, il faut que ça plaise aux gens, donc il y a des limites. Moi, j'ai jamais eu de limites, et c'est pour ça que j'ai pas toujours plu aux gens.
Et c'est pour ça que vous êtes autorisé à faire une farce un peu macabre. Vos autres livres ne ressemblent pas tout à fait à celui-ci.
C'est-à-dire que moi, je suis toujours allé jusqu'au bout des entreprises que j'avais. Mais là, c'était, si vous voulez, je suis parti de cette histoire d'une correspondance entre deux femmes qui sont un peu aux deux extrémités de la vie. Il y en a une qui a 22 ans, 24 ans, et l'autre qui en a plus de 80. Et ce qui m'a intéressé entre ces deux femmes, c'est cette possibilité de parler d'un sujet commun et finalement qui n'a pas beaucoup évolué, qui est l'amour. Et c'est ça le vrai héros du livre, parce qu'en fait, elle démonte l'amour pendant tout le temps. Et démonter ce fils, peut-être, et le faire cuire, et le brûler, et peut-être le manger, ce serait un peu... Oui, c'est un peu comme l'amour, c'est cette espèce de chose qu'on n'arrête pas de triturer dans ses mains, de regarder, de dire qu'on n'en veut plus, puis on le fait renaître à nouveau. Et c'est ce fils aussi, ce fils dont la mère ne veut plus, mais c'est quand même son fils, donc il revient. Et cette Noémie qu'il a quittée, mais quand même, elle regrette, qu'il ne regrette pas, etc., etc. C'est un peu ce va-et-vient de l'amour. Et moi, je suis toujours au fond de mon enfance, comme Lacan qui disait « j'ai toujours 5 ans ». Et moi, je suis toujours dans les contes de fées. Quand j'écris, je suis peut-être dans cet état d'enfance. Et donc, pour moi, c'est presque une banalité, le conte de fées. Donc, dans les contes de fées, on mange les gens et on ne fait pas tant d'histoires. L'histoire du chaperon rouge, on raconte ça aux enfants, on ne fait pas tant d'histoires. On dit que le loup dévore le chaperon rouge ou la grand-mère ou les deux. Voilà. Et puis, et moi, je ne fais pas tant d'histoires que ça en passant, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas, je vis peut-être un peu dans un dessin animé où on tombe, on s'éclate, mais on ne meurt jamais.
Finalement. Alors, vous avez une autre source d'inspiration qui a beaucoup irrigué vos précédents livres, ce sont les faits divers. Vous avez souvent appuyé vos livres sur du réel. Alors, quand vous entendez ça ?
Le 19 novembre 2013, Fabienne Cabou prend le train. Elle habite la région parisienne.
Tout à fait.
Elle prend le train avec sa fille, Adélaïde, qui a 15 mois, hein, c'est ça, hein ?
15 mois.
Bien, 15 mois. Elle arrive à Berck, et là, elle couche à l'hôtel. Ouais. Et le lendemain, en fin d'après-midi, alors que la nuit bientôt s'apprête à tomber, elle quitte l'hôtel, il fait pas beau.
Non.
Avec sa fille dans la poussette.
Tout à fait, on est en novembre.
Hein. On est en novembre. Ouais. Elle se rend sur la plage, et là, prend l'enfant dans ses bras, l'allonge sur le sable. L'enfant s'est endormi. Fabienne fait quelques pas en arrière, s'assoit et contemple son enfant.
Voilà.
Et là, la marée, évidemment, va monter. L'enfant reste endormi et l'enfant disparaît sous les eaux.
Voilà, c'était le fait divers qui est survenu en 2013, qui a beaucoup alimenté les commentaires de Fabienne Cabou, qui a donc tué sa petite fille. Régis Geoffrey, quand vous entendez l'histoire d'une mère infanticide, même si vous me dites que le sujet de votre roman, c'est l'amour plus que la mère, quand vous entendez ça, est-ce que vous éprouvez de l'indulgence, du coup, pour la mère infanticide ? Vous qui n'aimez pas les cadres, justement.
Non, mais je suis pas du tout intéressé en fait par cette histoire, parce que le côté qu'elle a qui est littéraire est épouvantable. C'est-à-dire ce côté de cette mère qui laisse monter la marée. Et dans la réalité, c'est le genre d'histoire qui ne m'intéresse pas. En fait, on se demande même comment la perversité de la réalité pour avoir fait ça, on se demande même si c'est une vérité ou si c'est quelque chose qui a été inventé.
Mais vous avez pourtant écrit un livre sur un père qui avait enfermé sa fille.
C'est pas pour cette raison-là. J'ai écrit ce livre, Klaus Riak, donc sur l'affaire Fritzl. C'est une jeune femme, un père qui enferme sa fille pendant 24 années et qui lui fait 7 enfants. 7, le chiffre. Ce qui m'a intéressé, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu 3 enfants qui sont restés dans la cave pendant 19, 18 et 5 ans. Et ça, c'était la caverne de Platon, puisqu'il ne connaissait rien de la réalité, puisque c'était une cave étanche comme une boîte, mais simplement, il connaissait tout grâce à la télévision.
Et là, du coup, il est où le tabou ? Est-ce qu'il y a une sorte de tabou pour vous qui est un peu franchi ? Quelque chose qui cesse de vous inspirer avec, par exemple, ces faits divers de mères infanticides ?
C'est-à-dire, j'ai pas jamais été tellement fasciné. Il y a eu trois occurrences où j'ai écrit sur des faits divers, c'était pour des raisons différentes. Et là, pour l'histoire de l'affaire Fritzl, c'était en fait une espérance et un désespoir et quelque chose d'extravagant. C'était ce petit garçon de 5 délinquants qui sortaient. Alors c'était la nuit, puisque on ne pouvait pas les sortir le jour, puisqu'ils n'avaient jamais vu le jour. Donc il y avait des voitures de police partout. Et donc il était dans un univers qu'il connaissait, puisqu'il l'avait vu dans les séries. Et il a dit, c'est bien que je puisse sortir, parce que je vais pouvoir monter dans une voiture. Voilà, c'est tout un univers, ça.
Il y en a un autre qui est assez secouant, c'est le chanteur Prince. J'essaie de faire une transition, ça ne marche pas. C'est la preuve avec Girls and Boys, bon, qui déménage autant qu'Hannibal. Ça, quand même, je peux le dire. L'apéro saignant jusqu'à 20h avec Régis Geoffrey et son dernier roman Cannibal, paru au Seuil. L'histoire d'une mère, Jeanne, qui avec la complicité de son ex-belle-fille décide de dévorer son fils. Régis Geoffrey, à quel moment un écrivain s'installe devant sa table et se dit « J'ai le truc, ça va être l'histoire de deux femmes qui correspondent et qui veulent quand même manger l'homme qu'elles ont en commun ».
C'est un livre extrêmement naturel, je dirais, au niveau du roman lui-même. C'est la forme première du roman, c'est-à-dire que c'est une correspondance. C'est-à-dire qu'il y a eu, avant même que le roman ait été inventé, il y a eu déjà des romans. C'était des correspondances, des gens qui ne savaient pas qu'ils écrivaient un roman, comme Héloïse Abélard, c'est un roman, et pourtant c'était à une époque où le roman n'existait pas. Et là, je dirais que là, dans l'écriture de l'histoire, mais je suis ces deux personnages, parce que c'est petit à petit que cette idée leur vient. C'est petit à petit, comme dans une vie, comme les choses surgissent. C'est-à-dire que là, c'est deux personnes qui se découvrent diaboliques et qui, au départ, ne le sont pas. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce sont des femmes qui sont en dehors de la réalité que nous connaissons. Il y a un personnage dans le livre qui est dans la réalité telle que nous la connaissons, c'est ce pauvre Geoffrey, j'allais dire. Mais les autres, elles viennent de nulle part. Elles viennent de siècles passés qui n'ont jamais existé. Elles viennent du fin fond du XVIIIe siècle. Vous comprenez, ce roman, c'est un roman luxueux. Voilà, c'est un roman luxueux, parce que déjà, parler d'amour, c'est un luxe. On dit l'amour, tout le monde en parle, mais non. Quand on est dans des situations extrêmes, les gens qui ont été dans la profonde misère, les gens qui ont été... Non, l'amour, il faut se reposer. C'est comme écrire un roman. Écrire un roman, vous pouvez pas écrire un roman quand vous êtes en pleine guerre. Eh bien, pour aimer de cette façon-là, et pour surtout en parler, pour prendre ses aises pour en parler, il faut être des personnages, comme sont les personnages de ce livre, mais qui sont pas des personnages qui peuvent exister dans notre réalité sordide.
Et ce sont des personnages féminins. Et c'est pas la première fois que vous vous mettez dans la tête de personnages féminins. Est-ce que le psychisme féminin, s'il existe, aurait quelque chose en plus pour vous ?
C'est-à-dire que comme je suis un homme, j'ai toujours pensé que les femmes étaient extraordinaires au sens premier du terme. Et comme dans notre société, quand même, l'homme est quand même présenté comme un être extrêmement binaire. C'est un peu comme, il est un peu en dessous du chien, quoi, comme psychisme.
Enfin,
on nous le présente comme ça, on nous présente comme une catastrophe ambulante, comme quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne sait pas aimer, qui ne comprend rien en réalité. Donc moi, j'ai intériorisé cette image de l'homme. Peut-être, et peut-être que j'en suis aussi responsable, parce que avec le temps, c'est nous tous qui faisons les choses, qui faisons l'image, qui faisons la société telle qu'elle est. Et donc, moi, j'ai toujours eu cette idée que la femme était extraordinaire et qu'elle était mystérieuse. Et ça vient du fond de moi-même, parce que en réalité, je ne sais pas si c'est vrai, parce que on est
que vous seriez un être inférieur. Vous ne savez pas si c'est vrai.
Non, je me pose la question parce que la misère de notre société, c'est qu'on n'est pas forcément bisexuel, ce qui est quand même bizarre. C'est-à-dire que on a des sociétés qui était tout le monde était couché avec des hommes, et là on est dans une société très séparée, donc on est hétérosexuel, on est bisexuel, donc on n'a pas j'ai pas l'expérience de tomber amoureux d'un homme. Voilà, ce qui doit être une expérience absolument extraordinaire, être aimé un homme, ça m'est jamais arrivé. Et peut-être qu'on découvre des mystères extraordinaires aussi.
Alors Jeanne et Noémie, elles ont une approche assez individualiste du sexe, parce que Jeanne s'est débrouillée pour trouver du plaisir toute seule, sans son mari qui s'appelle Poutine. Noémie, elle couche par politesse ou par désœuvrement. Certains diraient que vos femmes ont une approche entre guillemets masculine de la sexualité. Est-ce que cette approche, elle vous parle ?
Oui, ils ont une approche masculine, ils ont une approche libre. Mais c'est une liberté qui a existé, justement, quand je vous parle des temps anciens. Parce que c'est les temps anciens, c'est le 18e, parce que les femmes écrivaient beaucoup et tout le monde écrivait. C'était une époque où tout le monde avait un génie littéraire extravagant. Vous aviez cette liberté-là. Par exemple, si vous lisez la correspondance de Sade avec sa femme quand il était encore à Vincennes, c'est assez frappant. Ils ont une liberté de ton qui est complètement moderne. C'est pareil, c'était les privilégiés. C'est-à-dire c'était des bulles privilégiées où tout cela pouvait exister. Mais je pense que les femmes, c'est un peu un mythe de dire que à partir du moment où l'homme était libéré, la femme l'était aussi. Je pense que l'époque où l'amour ne fonctionnait pas, où cette idée qu'on a de que c'était quelque chose où tout le monde était frustré, les hommes non plus n'étaient pas libérés. Ce que les femmes ont... par les luttes du MLF, on s'est toujours moqué d'elles, mais c'est elles qui ont eu les plus de résultats. Les maoïstes, maintenant, ont honte de l'avoir été. Je veux dire, la liberté de la contraception, l'avortement, c'est quelque chose pour les hommes aussi. C'est-à-dire qu'on a des destins assez liés, en réalité.
Alors, avoir une mère qui voudrait vous dévorer, en tout cas vous écraser, mais en tout cas qui ne vous aime pas, ça peut être aussi bénéfique. Écoutez, Régis Geoffrey, ce que disait Madame Simenon quand elle comparait ses deux fils, Georges et Christian.
Je dois dire, monsieur, il avait une personnalité excessive. C'était même désagréable.
Ah,
vous savez, les enfants, j'ai eu deux fils, n'est-ce pas ? L'autre était plus jeune, mais quelle douceur, quelle différence, faites pas pitié.
Et écoutez maintenant la réaction de Georges Simenon, devenu grand.
Ma mère adorait mon frère, alors entre mon père et ma mère, lorsqu'ils parlaient de leurs enfants, mon père disait par exemple « ton fils » lorsqu'il parlait de Christian, c'était le prénom de mon frère, et ma mère disait « ton fils » quand elle parlait de moi à mon père.
Elle n'a jamais cru en vous, votre mère ?
Elle n'a jamais cru en moi.
Et une fois célèbre, une fois glorieux, qu'est-ce qu'elle a pensé de son fils ?
Elle n'a jamais eu confiance en moi.
Régis Geoffrey, est-ce qu'avoir une mère indigne, ça aide à devenir écrivain ?
Oh, ça, j'en sais rien, ma mère n'est pas indigne, hein, si j'avais voulu.
Et on l'embrasse
écrire.
D'ailleurs. On l'embrasse.
Non, mais là, ça, c'est le drame de tous les enfants. Je veux dire, ils ne sont pas reconnus par la mère. Parce que les mères investissent tellement, elles aiment tellement leurs enfants, qu'elles voient leurs enfants comme des infinis. Donc, elles pensent toujours qu'ils peuvent aller plus loin, qui n'est pas encore arrivé au port. Une mère voit toujours son enfant jeune. Donc il est jamais arrivé, il est toujours au début de quelque chose. Ça c'est, et en plus là il y a des histoires de deux fils. Moi je ne sais pas ce que c'est qu'un frère ou une sœur, j'en ai pas, je suis enfant unique. Donc ça c'est un domaine qui m'est complètement étranger. Je n'arrive même pas à comprendre les rapports qu'il peut y avoir entre un frère et une sœur par exemple. C'est quelque chose qui m'est étranger. Mais je crois que la mère par définition n'est jamais satisfaite par amour. Justement parce qu'elle croit que son fils est toujours plus. C'est-à-dire, s'il est champion de France de tennis, elle pense que, bien sûr, c'est un champion du monde potentiel. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Et que même s'il a 45 ans et qu'il va toujours au Roland-Garros, elle pense qu'il peut gagner à nouveau et que dans 10 ans, il sera encore plus fort.
Régis Offray, il est temps de savoir comment ça se passe, l'écriture, de connaître les rouages. On passe au procès-verbal. Vous verrez, ça fait pas mal. Votre nom ?
Geoffrey.
Prénom ?
Régis.
Vous écrivez assis, couché, debout.
Oh, n'importe comment. Très mauvaise position.
Tordu.
Je suis un peu comme là, comme je vous vois. Là, oui, je suis encore plus tordu. Oui.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Oh, sur ordinateur, oui.
Chez vous ou au café ?
Oui, un peu partout.
Un peu partout.
Partout.
Quand vous écrivez, Régis Geoffray, vous êtes habillé en jogging patte de bœuf ou au contraire, c'est assez cérémonial, vous vous habillez correctement.
Non, je m'habille pas. Non, je suis comme ça, là, vous voyez, des fois c'est pire que ça. Non, non, j'ai écrit dans le café avant de venir, là. Non, non, j'ai pas d'habit spécial, non, non.
Donc entre le bruit et le silence, vous avez choisi.
Oh, mais ça m'est égal, le bruit.
Le bruit
et le
ne
silence.
Vous gêne pas, en tout cas.
Non, non, il y a qu'un truc qui est très difficile à supporter, c'est les cris d'un bébé. Là, dans les trains, on a parfois ça, mais alors...
Dans les avions aussi.
Voilà, dans les avions aussi, voilà. Mais à part ça, et encore, on arrive à s'habituer, on s'habitue à tout.
Donnez-moi un mot pour la seconde qui suit le point final.
Le point final du livre, ben, c'est-à-dire il y a difficilement des points finaux parce que dans ce livre-là, je l'ai écrit une infinité de fois. Je
crois. Mais bien un moment, vous décidez que c'est terminé.
Oui, à un moment, j'ai décidé que c'était terminé et ben, ça n'a pas signifié grand-chose parce que j'ai repris le livre que j'étais en train d'écrire avant. Donc il y a un peu un mouvement, une espèce de course infinie pour moi dans l'écriture et de plus en plus, comme si j'étais pressé, comme si le temps manquait, comme si c'était une course un peu éperdue pour arriver à écrire tout ce que je voudrais écrire.
Merci Monsieur Geoffray, vous êtes libre.
Merci.
Mais surtout restez dérangés, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Escope.
Sur les personnes ne sait rien. En chaque lieu, il va, il vient. Partout il semble un étranger. C'est un garçon dérangé. Dans un grand verre turquoise il boit quelque chose de puissant et froid. Puis il en croque la glace pilée. C'est un garçon dérangé. Partout étranger. C'est un garçon dérangé. Partout étranger. C'est un garçon dérangé. Sous une cape de zibeline, couvert d'un manteau bleu marine, il marche en regardant ses pieds.
Garçon dérangé.
Vous écoutez La Muse-Bouche sur France Inter jusqu'à 20h. Notre invité, c'est Régis Geoffrey pour son livre Cannibal, paru au Seuil. Ah, voilà, alors ça c'est Frédéric Bagbédé.
Bonjour.
Oui, il est en retard, pardon Régis Geoffrey. Bonsoir Frédéric.
Pardon, excusez-moi.
Oui, une excuse parce que
j'étais en train d'être mangé par deux femmes.
C'est ça.
Parce que j'avais lu Cannibal de Régis Geoffrey et je voulais voir ce que ça faisait.
Donc vous êtes comestible.
Et elles ont trouvé que non. Elles ont trouvé que j'avais très mauvais goût. J'étais fade et pourri à la fois.
En tout cas, l'information, c'est que vous avez lu Cannibal, Frédéric, et nous ne sommes pas à l'abri d'une déclaration d'amour. Attention, Régis Geoffrey.
Oui, parce que dans toutes les émissions, maintenant, on fait intervenir un type qui, en général, descend l'invité. Puis alors là, c'est le contraire. Je vais faire beaucoup de compliments à Régis Geoffrey, que j'admire infiniment depuis très très longtemps. Pendant que je me faisais manger par ces deux femmes, j'écoutais l'émission quand même, et je vous ai entendu parler très bien de son dernier livre. Mais ça aussi, c'est vrai, maintenant, dans les émissions, on parle à un auteur, on lui parle toujours du dernier livre, ce qui est très bien, et c'est important, parce qu'en général, l'auteur, s'il vient là, c'est pour vendre son dernier livre aussi.
Voilà.
Hein. Mais dans le cas de Régis Geoffrey, il y a quand même, ça fait 30 ans qu'il écrit des romans, il a énormément écrit, il l'a d'ailleurs dit, c'est une sorte de graphomane, il ne peut pas vivre sans écrire tous les jours une grande quantité de paragraphes.
Et pensez à Picasso.
C'est vrai,
en toute modestie.
Non, mais il était très modeste justement parce que là, moi, je m'amuse des fois à faire des choses sur Instagram. Je peux pas aller plus loin que Picasso qui était en slip kangourou dans la rue avec un lévrier afghan. Non, mais je veux dire, Picasso il peint tout le temps, Richards il joue tout le temps. Il y a que les écrivains qui sont malades quand ils écrivent.
Grafoman n'était pas un reproche. Hein.
Ces autres livres, Frédéric.
Alors
pourquoi
justement,
tu vous parles comme ça.
Picasso, c'est une bonne référence parce
comparé.
Que Picasso a eu des périodes. La période bleue, la période rose et tout ça. Et en fait, chez Geoffrey, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord une phase qui est au début. Il y a un livre qui s'appelle Histoire d'amour, puis il y a Clémence Picot. Ensuite, Univers qui a eu le prix décembre. Promenade également, qui étaient des tentatives d'épuiser toutes les possibilités du désespoir. Une exploration de la condition humaine au conditionnel, où il passait en revue tous les fantasmes de quelqu'un de seul. Et au fond, son vrai sujet, c'est la solitude contemporaine. Et je voudrais citer un très bon auteur, moi-même, puisque j'avais écrit sur Promenade ceci.
Vous vous autocitez.
Oui, tout à fait, c'est
d'accord.
Une autocitation. La solitude est une insoutenable liberté de l'être. Que faire, qui être quand tout est permis? Il y a de quoi devenir dingue. C'est pourquoi les villes modernes sont des hôpitaux psychiatriques géants. Tout est possible, donc rien n'arrive. Pour Geoffrey comme pour Welbeck, nous sommes des explorateurs sans découverte. Notre vie est banale, la liberté a tué l'amour. Et donc il y a eu cette phase, qui est une phase très importante jusqu'à microfiction, 500 textes courts sur toutes sortes de tragédies. Et puis il y a eu cette phase faits divers, effectivement, dont vous avez parlé, avec trois livres, trois romans importants, je crois, Sévère sur l'affaire Edouard Stern, Clostria sur Joseph Fritzl, et la balade de Rikers Island sur DSK, qui lui a valu un procès, perdu d'ailleurs, ce qui est à mon avis...
J'en appelle. Hein.
Oui, mais c'est assez rare depuis Flaubert et Baudelaire, il n'y a pas eu énormément de livres censurés, je crois, par la France.
Hein. Mais ça peut changer parce qu'il y a une jurisprudence qui est tellement haineuse envers le roman que ça peut changer.
Oui, c'est vrai que cette décision est assez dangereuse et assez inquiétante. Hein. Et c'est vrai que Régis Geoffrey, ce qui l'intéresse, il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est il a une imagination de dingue, une imagination telle que en choisissant d'écrire sur des faits réels, ça lui permettait de limiter sa folie. Et là, avec Cannibal, il revient un peu à ses premières amours, hein. C'est-à-dire qu'il part dans des directions imprévues. En fait, avec cette correspondance. Cannibal, c'est un peu les liaisons dangereuses avec la Merteuil et la Tourvel qui voudraient bouffer Valmont. Hein. En gros, c'est ça, je résume, hein, c'est un peu ça l'idée.
respirez, Régis.
Moi, ce qui m'intéresse le plus chez vous, Régis, c'est la forme. C'est-à-dire ce style extrêmement bizarre, des phrases uniques. En fait, personne d'autre n'écrit comme ça. On ne sait jamais très bien où cette phrase va mener, comme dans ses rêves sans but, qui nous épuise, mais là, j'essaie de pasticher sans y arriver, parce que chez Régis Geoffrey, il retombe très très bien sur ses pieds. Je donne un exemple, page 47. Donc Noémie écrit à Jeanne, « Vous décrochez fort peu votre téléphone, en tout cas, je ne parviens pas à entrer en contact avec vous en composant le numéro que vous m'avez donné. Je suppose que votre opérateur vous a attribué une ligne de troisième ordre reliée à un central désaffecté. Les appels courent pendant des heures sur les câbles rouillés datant de l'entre-deux-guerres, ne s'échappant que pour se perdre dans quelques bourbiers, quelques mares de fermes abandonnées, aboutir dans les bassins d'une usine de retraitement des eaux usées avant de rejoindre la nappe phréatique ou condamnées pour toujours à n'être ni écoutées ni entendues par personne les voix des
locuteurs. » Ce n'est pas Guillaume Gallienne. Auditeur, si
noie.
Tu prends cette émission, ce n'est pas Guillaume Gallienne.
Non, mais c'est pour dire qu'il part, dans des délires complets et moi, j'ai l'impression, et c'est ça qui m'intéresse, moi, le plus chez Régis, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, C'est comme, si vous voulez, de lire Swift ou Kafka ou Tournier. C'est-à-dire que c'est la forme dicte le fond. C'est le contraire de ce que dit Victor Hugo. Il dit que le fond doit dicter la forme, et vous, c'est la forme qui dicte le fond. Au fond, il n'écrit que pour le vocabulaire, la musique, le phrasé, plus que pour ce qu'il raconte. Et est-ce que je dis une connerie ou pas?
Sûrement pas une connerie, mais c'est pas du tout mon impression. Alors, pour citer Hugo, il disait aussi surtout, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui, et je crois que c'est une légende urbaine, la forme. C'est-à-dire que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que personne n'a fait un texte avec la forme. La forme, ça n'existe pas.
Oui, mais.
Alors, ce qui existe, en revanche, messieurs, pardon, mais c'est quand même le moment des inavouables, en partenariat avec le Parisien Magazine, puisque Régis Geoffrey, vous êtes un écrivain, vous n'en êtes pas moins un homme, et un homme, ça a des secrets. Oui, je sais, j'ai travaillé ma transition, Frédéric. Vous avez des penchants certainement un peu honteux. Est-ce qu'il y a un classique, par exemple, qui vous tombe des mains? Vous n'y arrivez pas.
C'est-à-dire, c'est même pas que j'y arrive pas, c'est Charles Péguy.
Et qu'est-ce qui vous a fait Péguy?
Il y a une mode de Charles Péguy. On trouve que c'est une profondeur terrible. Moi, à chaque fois que... Alors là, j'ai bien regardé les citations sur Internet. Je les trouve à la limite de l'imbécilité. Donc moi, je voudrais aimer. Et puis, il y a un livre sur l'argent, là. Alors là, c'est... Je sais pas, moi j'en ai lu 50 pages où il dit les ouvriers dans ma jeunesse avaient l'amour du travail bien fait. Aujourd'hui, ils ne font plus rien sur les chantiers, etc. Et il y a beaucoup de gens très élevés qui citent Péguy, et j'aimerais qu'ils m'expliquent, parce que j'ai toujours pas compris.
Oh, c'est pour vous.
Mère, voici vos fils, Charles Péguy. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Qu'ils ne soient pas pesés comme Dieu pèse un ange. Que Dieu mette avec eux un peu de cette fange qu'ils étaient en principe et sont redevenus.
Oh, attendez, ça a de l'allure, Régis.
Ah, c'est pas mal, ça.
Ah, vous voyez, c'est Charles Péguy.
Il est surtout cité pour ses idées, pour ce qu'il raconte. Non, là, c'est assez beau. Hein, oui,
Est-ce qu'il y a dans le Parisien Magazine de la semaine prochaine, par exemple, il y a Stéphane Bern qui explique qu'il a jamais vu aucun film de Steven Spielberg?
Je sais pas, moi, j'ai jamais vu Stéphane Bern, donc.
Ça, c'est sûr.
Mais compensation, on se connaît pas du tout. Non, je l'ai vu à la télé. Je sais pas. Non, mais on n'est pas. Vous savez, moi, je serais incapable de vous dire quel film j'ai pas vu parce que j'ai dû voir à peu près tous les films, mais j'ai
pas. Mais il y a des choses qui vous parlent ou qui vous parlent moins. Est-ce que les blockbusters américains comme dont parle Stéphane Bern, par exemple, ça vous parle un peu moins? Ou au contraire, vous adorez?
Moi, je regarde tous les films et je n'ai aucune mémoire des noms. Ce qui revient, c'est-à-dire que c'est impossible d'être cinéphile dans ces conditions.
Ah oui, donc vous êtes une page blanche permanente, en fait.
Mais je me souviens d'images, mais je ne me souviens plus de noms.
Et côté musique, est-ce que, par exemple, comme Stéphane Bern, la semaine prochaine dans le Parisien Magazine, vous aimeriez Nana Mouskouri? Il dit qu'il adore Nana Mouskouri.
Pas vraiment, non, parce qu'en plus, Nana Mouskouri, elle nous a été imposée quand, dans mon enfance, on avait Nana Mouskouri tout le temps, alors qu'on aurait préféré du rock'n'roll.
Vous voyez, Nina Voix, vous n'arrivez pas à aimer Nana Mouskouri. C'est sur ces mots qu'on terminera la muse-bouche, messieurs, puisqu'il est temps de passer à table, ou de sortir dîner, ou de rester tout seul, si vous n'avez pas d'amis, mais enfin, si vous avez des livres, c'est réglé. Je rappelle que Cannibal de Régis Geoffrey est paru au Seuil. La semaine prochaine, nous recevrons Tonino Benacquista pour Romanesque, paru chez Gallimard. La muse-bouche a été réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un nom d'écrivain, avec Amel Caldi, Thierry Dupin à la programmation musicale et un exquis technicien qui s'appelle Stéphane Beaujard. Après 20h, vous retrouverez D'ici et d'ailleurs de Zoé Varier. Très belle soirée sur Inter. Je vous embrasse, à samedi.